cette année, je compte me présenter aux élections municipales.
Radio WNE.
Bonjour et bienvenue sur Radio WNE pour la campagne des municipales à Mulhouse les 15 et 22 mars 2026. Nous recevons ce lundi 9 mars 2026 Salah Keltoumi. Bonjour.
Bonjour à vous et à tous vos auditeurs.
Qui est la tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et nous avons autour de ces micros Elif Tuncel, bonjour.
Bonjour.
Et Camille Halm.
Bonjour.
Pour interroger notre candidat du jour, Salah Keltoumi, on va peut-être commencer par te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Raconte-nous si tu veux bien.
Donc j'ai 57 ans, je suis ouvrier à l'usine Stellantis Mulhouse, ex-Peugeot, enfin toujours Peugeot, dans la tête de beaucoup de Mulhousiens. Et avant cela, je travaillais à l'usine Citroën, qui fait partie du même groupe, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, l'usine qui a fermé. Donc voilà, j'ai fait comme un tas de travailleurs qui viennent de différentes régions de France, ou du monde d'ailleurs, de plusieurs continents, qui suit un peu, qui va là où il y a du travail. Donc voilà, je suis ici un peu par, voilà, c'est les chemins du travail qui m'ont emmené ici, mais voilà. Mais j'étais déjà militant quand j'étais en région parisienne, militant pour l'organisation Lutte ouvrière. Je suis communiste depuis l'âge de 15 ans, voilà, et je suis militant ouvrier dans les usines depuis l'âge de 19 ans.
Et syndicaliste aussi ?
Je suis syndicaliste, oui, je suis syndicaliste. Alors, je viens pas parler au nom, je tiens à le préciser, j'ai pas de mandat pour parler au nom de la CGT, voilà, mais je suis délégué CGT à l'usine de Mulhouse. Mais je viens ici en tant qu'ouvrier et puis militant politique, militant communiste.
Donc tu as totalement remplacé Julien Vosteen, qui était en 2020 le candidat Lutte ouvrière au municipal et délégué syndical à l'usine Peugeot.
Je le remplace pas, nos forces s'additionnent. Parce que le camarade de Julien Vosteen, il fait partie de notre liste, voilà, et il milite toujours à mes côtés, plus dans l'usine, mais il milite encore en tant qu'ouvrier. Il s'est lancé dans la pâtisserie, mais voilà, le camarade est toujours dans l'organisation. Et d'ailleurs, en fait, le problème, c'est pas Julien Vosteen ou moi. D'ailleurs, on pourrait parler de ma colistière, qui est une camarade qui travaille à la mairie. Voilà, Nathalie Mulot. Donc ça aurait pu être elle, et puis peut-être que la prochaine fois ça sera elle ou un autre, mais ce qui compte le plus, c'est que notre liste, elle est composée de travailleurs et de travailleuses, de jeunes étudiants. Il n'y a aucun professionnel de la politique. Moi, vous savez, après ces élections, de toute façon, je suis à l'usine, je retournerai à l'usine. Ma camarade Nathalie Mulot retournera dans ses bureaux, voilà, en tant qu'employée. Puis nos camarades qui cherchent du boulot, ils continueront à chercher du boulot. Puis ceux qui travaillent dans le privé ou dans le public. Voilà, donc c'est une liste de travailleurs et de travailleuses. Il n'y a pas de notable, c'est un choix. Il n'y a pas de professionnel de la politique, c'est un choix. On fait tout fonctionner dans la société. On est au début, au milieu, à la fin de chaque chaîne de production, dans la chaîne de la santé, dans la chaîne de l'approvisionnement en eau, en électricité, dans les transports. Voilà. Il n'y a pas de raison que ceux qui font fonctionner toute la société, ils n'aient pas le droit, et donc on a le droit, on a même le devoir de participer à ces élections, de faire entendre une autre voix. On ne peut compter que sur nous-mêmes, voilà, pas sur ceux qui nous promettent des choses, d'élection en élection, et ceux qui ont décidé de défendre le camp du patronat, de la bourgeoisie. Voilà.
Alors, on a la chance, Salah Keltoumi, d'avoir dans ce studio deux jeunes femmes, Camille et Elif, qui vont découvrir Lutte ouvrière et peut-être même.
Ils connaissent déjà peut-être, non ?
Peut-être, en tout cas la révolution, elles connaissent celle de 1789. Elif ?
Moi, j'ai une question. Vous avez dit que vous êtes communiste depuis l'âge de 15 ans, mais c'est quoi être communiste ?
Le communisme, je ne l'ai pas inventé. Et le communiste, il y avait des idées communistes, y compris des gens qui disaient qu'il fallait mettre en commun toute la société, toutes les richesses de la société, tout le travail qui a été fait dans la société. Il y a eu ce qu'on appelait des socialistes utopistes, des gens qui pensaient justement à une société qui ne soit pas basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, qui voulait une société beaucoup plus égalitaire, donc y compris au temps de la Révolution française. Et puis l'intellectuel qui a vraiment, j'allais dire, mis ça sur le papier en écrivant un programme vraiment pour la classe ouvrière du monde entier, c'est Marx. Marx, donc voilà, c'est un marxiste, un communiste, révolutionnaire, c'est un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui est issu d'un milieu pauvre, mais c'est un Allemand, voilà, et puis il est accompagné d'Engels et puis d'autres, et puis leur problème c'était de se dire, cette société elle est inégalitaire, mais ces sociétés de riches et de pauvres, ça a toujours existé, mais sauf qu'il y a des particularités dans les sociétés, elles changent de temps à autre, et puis il y a des mouvements sociaux qui font que ceux qui sont à la tête, à un moment donné, on leur coupe la tête, enfin je dis ça entre guillemets, mais en tout cas on s'en débarrasse, on change de société, c'est ce que la bourgeoisie a fait en 1789, avec la puissance de la population, de la paysannerie à l'époque. Et voilà, donc Marx il voit ça, il se dit, mais voilà, la bourgeoisie a pris le pouvoir, mais en prenant le pouvoir, elle développe un tas de choses, elle défend et développe le capitalisme, elle développe les routes commerciales, elle développe l'industrialisation, elle développe un mode de circulation financière, un mode d'industrialisation, etc. Mais elle développe aussi de plus en plus une inégalité et elle crée ce qu'on appelle une classe sociale qui est le prolétariat. Donc c'est un prolétariat qui est à l'origine soit artisan, soit originaire de paysannerie. Donc on fait comme en Angleterre, on va piquer, on va les terres des paysans, on les expulse et puis on les envoie dans les villes. Et puis dans les villes, on les force à travailler, y compris dans ce qu'on appelle des workhouses, des maisons de force où on les fait travailler. Et puis ceux qui mendient, on les pend. Voilà, c'est toute l'histoire aussi de la classe ouvrière en Angleterre, mais y compris en partie en France. Et ils voient cette classe ouvrière se développer, voir une classe bourgeoise de plus en plus riche, avec un développement de plus en plus important à l'échelle du monde. Et puis d'un autre côté, une classe ouvrière qui se développe, qui grossit. Mais des 15 heures, 12 heures, 16 heures de travail par jour. C'est des enfants qui travaillent, c'est des femmes qui travaillent, c'est des travailleurs qui vivent pas très longtemps, qui meurent avant 30 ans, qui vivent dans des conditions exécrables. Mais en même temps, cette classe ouvrière, elle se laisse pas faire. Voilà, elle se laisse pas faire. Elle se bat déjà pour ses propres revendications. Et Marx, il a le génie de comprendre que c'est cette classe qui va pouvoir changer complètement la société, comme la classe bourgeoise l'avait fait par rapport aux féodaux, par rapport aux aristocrates. Voilà, bah c'est cette classe d'avenir qui, elle, n'a rien à perdre dans cette société parce qu'elle n'a que sa force de travail pour vivre et elle n'a aucun autre intérêt dans cette société. Donc, voilà, il va miser sur cette classe, justement, pour renverser le capitalisme, pour renverser cette bourgeoisie, voilà. Donc, il va miser dessus. Et le communisme, c'est quoi? Le communisme, c'est... On produit pourquoi? Pourquoi on produit dans cette société? On produit... Enfin, ceux qui produisent, ceux qui décident de produire, c'est ni moi qui suis à l'usine, ni le copain qui transporte des ouvriers, ni celui qui transporte des minerais ou qui travaille dans le pétrole qui va décider de pourquoi ou pas ou en quelle direction il produit ou il transporte ou autre chose ou il vend. Non, c'est pas lui qui décide. Ceux qui décident, ce sont ceux à qui appartiennent les entreprises, ceux à qui appartiennent l'économie. Donc les grands patrons, ils décident de tout, ils organisent le travail en fonction du profit. Donc qu'est-ce qui est utile? Moi, je vous pose la question. Vous êtes jeune, est-ce que fabriquer des bombes, c'est utile? Est-ce que c'est utile à l'humanité? Est-ce que moralement, c'est utile à l'humanité? Vous allez me répondre non, vous avez bien raison. Enfin, vous répondrez ce que vous voudrez. Mais en tout cas, moi, je pense que non. Et ben pourtant, dans cette société, on va fabriquer des missiles, on va fabriquer des bombes. Ils s'en servent actuellement pour deux choses. Pour faire la guerre, pour récupérer du pétrole ou des minerais ou autre chose comme en Iran, etc. Pour asseoir un ordre social, l'ordre de l'impérialisme, notamment américain, c'est lui le plus fort. Et aussi parce que vendre des armes, ça rapporte du pognon. Vous, il y a une maladie qui fait énormément de morts en Afrique, c'est la rougeole. C'est la rougeole. On sait la soigner, la rougeole. Et pourtant, ça fait énormément de morts, la rougeole. Pourquoi ça fait énormément de morts? Parce qu'on n'a pas trouvé le vaccin. Le vaccin existe, mais le vaccin, il ne rapporte pas assez d'argent. Donc voilà, on préfère laisser mourir des gens de rougeole en Afrique ou d'autres maladies plutôt que de les soigner. Parce que se soigner, y compris dans cette société, c'est le fric. C'est si ça rapporte des sous ou pas. Le logement, c'est pareil. La santé, c'est pareil. L'éducation, tout, c'est pareil. Donc c'est une société qui est basée sur le fric. Et ceux qui dirigent la société, ils veulent du fric. Ils sont obèses de fric. Ils en veulent encore plus. Ils sont sans limite là-dessus. C'est pas eux qui produisent ce fric, c'est eux qui décident. Parce que les usines leur appartiennent, les capitaux leur appartiennent, les banques leur appartiennent, les armées, les États quelque sorte, leur appartiennent, dans le sens où ces États, ces banques, elles sont de leur côté. Voilà, les hommes politiques aussi qui sont au gouvernement. Donc, nous, on voudrait une société qui soit basée sur les besoins des gens. Qu'est-ce que les gens... De quoi ont besoin les gens? De quoi ont besoin les jeunes? Plus d'éducation, plus de santé, plus de logement, plus de loisirs, etc. Est-ce que cette société peut la donner? Non. Elle la donne partiellement, de temps en temps, dans certains pays, dans certains havres de paix. Alors là, les havres de paix, ils ont tendance à disparaître avec ces guerres. Voilà, qui se déclenchent les unes après les autres, et puis ça se rapproche, et puis ça s'aggrave de plus en plus. On sera sûrement touchés, nous, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je parle de nous, les plus vieux, mais aussi les plus jeunes. Surtout les plus jeunes, c'est ceux-là qu'on envoie faire la guerre. Et voilà, donc on a besoin d'une autre société. Une société, c'est ça le communisme, c'est mettre tout en commun, tout en commun. Tout en commun, tout. Selon nos capacités de travail, selon notre capacité intellectuelle, tout le monde a le droit de bouffer, a le droit de manger, a le droit de se loger. Voilà. Ça doit être un droit qui doit être pour tout le monde. Bah pour ça, il faut changer complètement la société. C'est ça, être communiste.
En tout cas, ça ne va pas être facile de prendre la parole face à Salah Keltoumi pour Elif et Camille, mais je pense qu'on va y arriver quand même. Mais le communisme, en passant... Est-ce qu'il a été appliqué quelque part, véritablement, selon toi, Salah Keltoumi?
Oui, oui, oui. À chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises collectivement, même maintenant, dans des grèves ou dans des luttes, quand les travailleurs choisissent leur revendication, c'est le communisme. C'est ça, le communisme. C'est quand ceux de la base, ils décident. Quand la commune... Alors, ils n'appellent pas ça communiste. Les gens n'appellent pas ça communiste, mais ils mettent en commun leurs forces. C'est ça, le communisme aussi. Quand la commune de Paris, parce qu'on a parlé de 1789, quand la commune de Paris, pendant quelques mois, les ouvriers, les intellectuels, la population sur Paris se révolte, parce que les bourgeois se taillent. Parce que la guerre est perdue contre la Prusse. Donc les Prussiens arrivent avec leur armée, et les bourgeois vont se planquer à Versailles, vont se barrer. Donc ceux qui défendent la ville, ça va être la population les plus pauvres. À l'époque, Paris, c'était une ville de pauvres, hein. C'était pas une ville où il y avait des riches comme maintenant. Enfin, il n'y a pas que des riches maintenant. On a y compris des listes tutourières à Paris. Il n'y a pas que des riches à Paris. Mais à l'époque, c'était les faubourgs parisiens, c'est Gavroche. Vous voyez tout un peu ces images, c'est des révolutions en 1848-1871. Donc, sans être communiste, sans se dire communiste, certains se disaient socialistes, en tout cas voulaient changer le monde. Vous voyez des militants comme Édouard Vaillant, comme Louise Michel, etc. Bah, quand ils ont pris le pouvoir à Paris, les premières choses qu'ils ont fait, par exemple, c'est l'éducation obligatoire pour les enfants. Voilà. La journée de 8 heures. Le droit de vote aux femmes. Impressionnant. Hein, le droit de vote aux femmes, c'est après 45 ici en France. En 1870, les Parisiens, les pauvres Parisiens, ils ont imposé, par la démocratie, parce qu'ils l'ont décidé entre eux, ils ont imposé le droit de vote aux femmes. C'est impressionnant, ça. Ça, c'est être communiste. Ils ont donné le droit de vote aux étrangers. Voilà. Tu travailles à Paris, tu vis à Paris, tu payes des impôts, tu es utile à la société, tu n'exploites personne, on vous donne le droit de vote. Donc il y a un certain nombre de travailleurs pendant la commune qui avaient le droit de vote, donc tout se décidait, c'était des sortes d'assemblées, c'était des discussions, c'était des... Alors ça n'a pas duré longtemps, parce que la bourgeoisie, les gens en place, ils détestent quand ce sont ceux d'en bas qui décident. Et surtout quand ceux d'en bas montrent qu'une autre société, c'est possible, et puis s'organisent pour changer la société. Alors, ils ont été massacrés. Voilà. Donc, vous pouvez aller, quand vous irez à Paris, vous irez devant le mur des fusillés de la commune de Paris. Ils ont été plusieurs dizaines de milliers à être massacrés. Et puis, ceux qui n'ont pas été massacrés, ils ont été expulsés, puis ils ont été exilés, comme par exemple Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, ça, c'est être communiste. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, après, il y a, nous, ce qu'on veut, c'est créer un parti qui soit du côté des travailleurs. Pour nous, il doit être communiste. Voilà. Communiste et révolutionnaire. Un peu comme le Parti communiste russe. Alors, Parti communiste russe, je sais que ça fait bondir beaucoup de gens. Les bolcheviques, oui, nous, on se réclame des bolcheviques. On se réclame de Trotsky, on se réclame de Lénine. Par contre, on ne se réclame pas de Staline, parce que Staline, qui se disait communiste, qui est un bureaucrate, il a massacré les militants, il a massacré ceux qui ont construit le parti communiste bolchevique à l'origine, pendant la, enfin avant la Révolution russe, pendant la Révolution russe et après la Révolution russe. Voilà, il les a massacrés jusque dans les années 40-50. Et puis surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a muselé la classe ouvrière, il lui a fait fermer sa gueule, et puis c'était sous peine de prison ou de mort ou d'expulsion ou d'exil, etc. Ça, oui, c'était une dictature. Mais nous, Staline, j'ai pas de problème là-dessus, parce que Staline, nous, notre courant, nous sommes un courant communiste, révolutionnaire, on est des léninistes. On est trotskiste. Trotskiste, ça veut dire être d'accord. Enfin, il était d'accord avec Lénine. Il a suivi, après la mort de Lénine, la politique du parti bolchevique. Il l'a défendu. Et être trotskiste, c'est défendre toutes les traditions de lutte du parti communiste bolchevique russe. Alors oui, là, je m'en réclame tout à fait. Et Trotsky, d'ailleurs, notre courant, on se dit trotskiste. On a été aussi longtemps pourchassé. Trotsky a été assassiné au Mexique. Et y compris, on a un camarade à nous... qui était à l'origine de notre organisation lutte ouvrière, qui, après la Seconde Guerre mondiale, qui a été assassiné, lui aussi, par des nervis staliniens. Donc voilà, il y a eu aussi des nervis staliniens, y compris en France, dans le Parti communiste français, donc qui, nous y compris, nous faisait fermer notre gueule dans les usines, dans les quartiers, là où on militait. Donc nous, on a toujours... on a toujours milité pour changer la société, on a toujours défendu le communisme, mais... en disant que le stalinisme, c'était pas le communisme, c'est pas du tout le communisme.
Mais le Parti communiste français n'est pas communiste, selon toi?
Ça fait longtemps qu'il l'est plus. Il l'était au début du siècle. Justement, le Parti communiste, d'où vient son histoire? C'est avec la Révolution russe, comme la Révolution française d'ailleurs. La Révolution française, elle a eu une importance, pas seulement en France, mais dans le monde. Ça a été aussi des idées qui se sont propagées en Allemagne. D'ailleurs, Marx... lui-même, il a été influencé par les révolutions françaises. Alors, le plus impressionnant dans la Révolution française, c'est quand on voit les masses. On nous parle de Danton, on nous parle de Robespierre. Je ne sais pas qu'ils n'avaient pas d'importance. Ces militants importants. Mais ce qui avait plus d'importance, c'est comment la population s'est mise elle-même à faire de la politique, à se réunir, comment des illettrés, comment des paysans, comment des ouvriers des quartiers, des artisans ont commencé à se dire ben, « on peut changer la société ». C'est ça le plus important dans la Révolution française. Alors tu m'as posé une question,
Le PC, le
Parti communiste oui, alors le PC, il est plus... Il s'est créé parce qu'il y a eu la Révolution russe, voilà, il y a eu une influence dans la Révolution russe, il y a eu des partis partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, qui sont nés après la Révolution russe. Ça a été vraiment un tremblement de terre, mais un tremblement de terre... dans le sens important, mais positif. Tremblement de terre, en général, c'est pas toujours positif, mais c'était très, très positif au niveau politique. Donc il y a beaucoup d'ouvriers, de travailleurs qui regardaient vers l'URSS en disant, si les travailleurs en URSS ont pris le pouvoir, s'ils ont chassé le tsar, s'ils ont chassé un régime féodal, un régime autocratique, une dictature, la Russie à l'époque, on appelait ça la prison des peuples. Voilà. Donc ils ont chassé ceux qui étaient à la tête de la prison des peuples. Voilà. Ils l'ont libéré, ils ont donné y compris le droit des peuples à disposer de leur liberté ou pas, etc. Donc voilà, donc il y a eu la création, les travailleurs français ont regardé, voilà, c'était un espoir. Mais en même temps que le Parti communiste en Russie, sa politique devenait stalinienne, en même temps que les travailleurs en Russie faisaient de moins en moins de politique, en même temps, en France... Le Parti communiste français, lui aussi, il est devenu nationaliste. Être communiste, c'est être internationaliste. Être communiste, c'est être contre les frontières. Il y a un moment donné où le Parti communiste français, il était contre les frontières. Il était pour abolir les frontières. Il était pour abolir les nationalités. Il était, ce qu'il disait, c'est « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Voilà, quel que soit son pays, etc. À partir du moment où le Parti communiste français, comme tant d'autres, est devenu nationaliste, a préféré défendre le travail en France, les usines en France, nos frontières, c'est-à-dire se mettre derrière la bourgeoisie et l'État français devant un intérêt commun qui est national, oui, le Parti communiste, il a arrêté d'être communiste.
Camille, une question pour notre invité Sarah Keltoumi.
Alors justement, moi, quand on parle de communiste, il y a une idée reçue qui revient tout le temps. La première chose que j'entends, c'est « Oh, mais une société communiste, ça ne peut pas fonctionner, tout est tourné vers le capitalisme maintenant, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas exister aujourd'hui dans notre société moderne. » Alors qu'est-ce que vous auriez à redire, vous, à ces défaitistes, aux sceptiques qui pensent que la révolution, elle est impossible?
Les révolutions, il y en a toujours eu. Donc, vous savez... Les révolutions, c'est quand il y a des millions de travailleurs ou de travailleuses, des millions de... J'aime pas le mot citoyen, mais des millions de jeunes, des millions de paysans se mettent en branle et puis décident de changer leur sort. La révolution, en Iran, en 79, il y a eu une révolution. Alors on l'oublie parce que en Iran, pendant des dizaines d'années, à la tête de ce pays, il y avait ce qu'on appelait un Shah, le Shah d'Iran, qui était une ordure. Bon, voilà, là, on nous met, on parle de son fils comme étant quelqu'un de démocratique. Son père, il l'était pas, et son fils ne le sera pas non plus. Et c'était un dictateur qui régnait d'une main de fer, avec une police secrète, avec des prisons, de la torture. Etc., etc., et puis qui travaillait avec l'impérialisme américain. L'Iran, c'est marrant parce que partout où vont les États-Unis, partout où ils libèrent une population, partout où ils veulent libérer une population pour la démocratie, partout où ils trouvent du pétrole. Marrant, partout où ils font ça, ils trouvent du pétrole. Bon, voilà. Donc à l'époque, voilà, c'était un allié des États-Unis. Voilà, mais c'était une ordure. Donc en 79, il y a eu une révolution. Révolution, les masses sont levées. Bon, cette révolution, elle a donné, malheureusement, après cette révolution, c'est pas cette révolution qui a donné, mais c'est en tout cas ceux qui ont pris le pouvoir après cette révolution, c'est ce qu'on appelle les mollahs. Mais ça aurait pu être différent, parce que c'était déjà une révolution sociale, parce que les gens, quand ils se battent pour avoir une meilleure éducation, avoir le droit de parler, avoir le droit de nourrir, avoir le droit d'avoir des journaux, avoir le droit de syndiquer, de faire grève, etc. Avoir le droit, le droit d'avorter, le droit pour les femmes, le droit, enfin, etc., le droit de vote, le droit, voilà, etc. Et ça, c'était aussi des choses qui existaient pendant la révolution en 79 en Iran. C'était pas voilà. Donc, alors, les révolutions, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Est-ce qu'elles vont jusqu'au bout ou pas? Voilà. Donc, des révolutions, on peut y croire ou pas y croire. Des fois, ça n'arrive jamais dans une vie. Puis, des fois, il y en a qu'on voilà. Nous, notre génération, on en connaîtra peut-être pas. Mais peut-être que la génération d'après en connaîtra. Mais c'est pas parce que j'en connaîtrai pas ou c'est pas parce que j'aurais pas connu qu'il y en aura pas. Il y en a. Ça, c'est le mouvement de l'histoire. Vous en avez toujours. Il y a eu plusieurs révolutions en France. Je parlais de 48, je parlais de 70 à Paris. C'était une révolution. En 89, c'était une révolution. Et voilà. Et puis, bon, voilà. En 17, il y en avait une. Et puis, voilà. Il y en a des révolutions.
Avec les siècles.
Ça dépend pas de nous.
1870, 1848. Oui. Hein, donc, oui, non, mais si on donne les années, c'est mieux de les situer dans le siècle parce que.
1870. Non, mais je parlais pour la France, mais par exemple 1979, c'est en Iran, et puis en Chine, il y en a eu en 1927, en Russie, il y en a eu en 1917, et puis ce siècle, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas, il va y en avoir, parce que qu'est-ce qui provoque la révolution? C'est pas le fait que mon parti, que mon organisation, que des organisations, que des partis communistes existent ou pas, c'est pas ça qui fait qu'il y ait des révolutions ou pas. Des révolutions, c'est à un moment donné, et ça on le décide pas, c'est quand des populations, des millions de gens disent il y en a marre. Qu'est-ce qui peut les pousser à qui en est marre? Bon, 68, c'était pas une révolution, c'était pas voilà. Les gens n'ont pas pris le pouvoir, n'ont pas décidé de prendre le pouvoir, mais en 68, je sais pas si tu as connu Jean-Luc, j'en sais rien, ou t'es jeune comme moi, on n'a pas connu. Voilà, mais ceux qui connaissent disent que quand ça a démarré à la fac, c'est aussi dans une fac, c'était pour une histoire de mixité parce qu'il y avait un bâtiment de filles, il y avait un bâtiment de garçons. Des fois, ça peut commencer, ce qui peut déclencher, voilà. Mais les grosses révolutions, bah, c'est la révolution russe. Un des déclencheurs de la révolution russe, alors, il y en avait déjà eu, il y avait eu 1905, 1917, mais à un moment donné, c'était la guerre, la Première Guerre mondiale, et les gens avaient faim. Les paysans y étaient dans les tranchées, le pays était dans un état de délabrement tel, c'était aussi la dictature. Et puis il y a eu des femmes qui sont allées demander du pain dans des boulangeries, puis il n'y en avait pas. Et puis les femmes ont commencé à manifester, et puis ça a commencé aussi par les femmes. Et puis les ouvriers des quartiers, les ouvriers des usines les ont rejoints en disant bon ben voilà, elles ont raison, elles défendent notre pouvoir d'achat, puis elles défendent le fait de pouvoir vivre décemment, manger décemment, etc. Alors ils avaient en face d'eux des Cosaques, ils avaient en face d'eux des soldats, des policiers qui étaient prêts à tirer, contirer, mais voilà, les révolutions c'est quand les populations en arrivent à un tel point que de toute façon, voilà, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Voilà. Alors ça a toujours existé. Tu as déjà lu le bouquin Spartacus ?
Non, absolument
pas. Bon,
ben
voilà. Alors, tu peux lire le bouquin de Spartacus, je te le conseille, c'est un roman. C'est un roman que je prête, que mes camarades prêtent. C'est Spartacus, Do Hard Fast, voilà, et où on te raconte une véritable histoire. C'est l'histoire d'une révolte d'esclaves sous l'Empire romain. Donc comment ces esclaves ? Ben voilà, on avait marre, alors ça commence par des gladiateurs dans un camp, puis il va y avoir une armée d'esclaves qui vont se lever, contre l'Empire de l'époque, qui était l'Empire romain. Donc voilà. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc il y en a toujours la révolte. Des révolutions, des révoltes, c'est pas ce qu'ils font.
Et comment est-ce qu'un pays qui se revendique comme communiste, pour vous, ce serait quoi la manière dont l'économie devrait fonctionner ? Puisque avec le capitalisme, le but, c'est évidemment le profit, plus de profit, comme vous l'avez déjà dit. Mais le communisme, c'est comment l'organisation économique ?
Alors, je réponds juste un peu, parce que je suis allé... J'ai pas tout à fait répondu quand même à ta question tout à l'heure. Ceux qui disent que... Est-ce que le système capitaliste, il est plus viable ? Est-ce que tu penses que vivre dans le système capitaliste actuellement, pour un Ukrainien, pour un gars de Gaza, pour un gars du Soudan, pour un gars d'Érythrée, pour nous peut-être demain, voilà, faut t'imaginer dans le contexte où on va nous envoyer faire la guerre, c'est les plus jeunes qui font la guerre. N'oublie pas qu'il y a de ça quelques mois, deux ou trois mois, il y a un général qui est venu au Congrès des maires, parce qu'on est là dans le cadre des sélections municipales, et de quoi il a causé ? Il a dit grosso modo aux maires, il faut que vous soyez la courroie de transmission des futures guerres. C'est-à-dire que les futures guerres, on aura besoin de pas seulement de rafales, on aura besoin de jeunes pour aller faire la guerre. Voilà. Donc il fallait que les jeunes vous aidiez à faire comprendre aux jeunes qu'il va falloir qu'ils se sacrifient. Donc les jeunes, actuellement dans le système capitaliste, on leur dit qu'il faut se sacrifier pour le travail. On leur dit que si tu veux un bon boulot, si tu veux une réussite, il faut que tu fasses des études, on fasse plein d'études. Puis si tu n'y arrives pas, il faut que tu t'accroches. Et puis si tu ne t'accroches pas, il faut que de toute façon, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est la concurrence entre jeunes. Donc il va falloir que tu piques la place à celle qui est en face de toi ou toi à la place de celle qui est en face. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez de place. Donc c'est la concurrence. C'est la concurrence. C'est ce qu'on propose là dans cette société. C'est ce qu'on propose dans cette société pour les jeunes, c'est la précarité. Bon, voilà. Ça, c'est en France. Mais le capitalisme, la société capitaliste, c'est seulement la France. C'est le reste du monde. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que le système capitaliste, il est bien ? Est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir ? Est-ce que vous pensez que le siècle dernier, c'est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des guerres coloniales, des massacres partout, etc. Bon, c'est ça, le système capitaliste ? C'est la seule chose qu'il a apporté ? C'est la concurrence entre les entreprises, c'est la concurrence entre les travailleurs, c'est ça. Donc quand on me dit le communisme, c'est pas viable, on n'a jamais essayé. Enfin, on a essayé un peu en Russie, mais en Russie, on a essayé quelques années, et puis ensuite, après, ça s'est pété la gueule pour différentes raisons. Parce que le communisme, ça ne peut pas exister dans un seul pays. Le problème de l'URSS, c'est que l'URSS était isolée. L'URSS s'est fait attaquer quand même, hein. L'URSS des travailleurs et des paysans qui ont pris le pouvoir, les paysans, ils ont récupéré les terres qui n'étaient pas eux, enfin, ils travaillaient dessus. C'était des féodaux, c'était des riches qui leur disaient : vous travaillez pour moi. Les paysans, ils ont dit : nous, cette terre, on y travaille de génération en génération, on la récupère. Ils l'ont récupérée. Et les travailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les usines. On a dit : on va faire tourner les usines, mais pour les biens de la communauté, pour les biens du quartier, pour les biens de nos familles, pour les biens des travailleurs. Et c'est pas au service des patrons. Voilà. C'est ce qui a été fait. Sauf que si tu fais ça seulement à l'échelle d'un pays, si tu es entouré, si tu fais ça dans un monde qui est capitaliste, voilà, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que des armées européennes, après la Première Guerre mondiale, ont été envoyées en Russie. Donc une des premières choses qu'ont fait les travailleurs et les paysans, les pauvres, qui ont pris le pouvoir en Russie, c'est de se défendre contre l'armée française. Se défendre contre l'armée anglaise, se défendre contre l'armée allemande, se défendre contre l'armée... De Gaulle, un de ses premiers faits d'armes, il était à la tête d'une compagnie de chars, puis il allait faire la guerre contre des travailleurs et des paysans russes. Voilà. Donc quand tu es isolé, donc là, le capitalisme, tu ne peux le concevoir qu'à l'échelle de la planète. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas capitaliste. Il n'y en a pas un seul. L'économie, elle est partout. Si tu veux une économie communiste, c'est-à-dire une économie basée sur les échanges, sur le travail de tous, en fonction de ses besoins, en fonction de ses possibilités, de ses capacités, il y a besoin d'échanges entre les pays, mais des échanges qui ne soient pas faits entre... Là, actuellement, il y a des échanges entre pays, mais c'est grosso modo, tu me donnes ça à tel prix. L'armée américaine, sinon on te l'envoie. On veut ton pétrole à tel prix. Tu ne veux pas le donner, j'envoie mon armée là-bas. C'est comme ça, c'est des échanges inégaux, et c'est les pays les plus riches qui cassent la gueule aux pays les plus pauvres. Dans une société communiste, il n'y a pas de pays pauvres, il n'y a pas de pays riches, on met en commun toutes les richesses de cette société. Les richesses, les minerais, le pétrole, le gaz, les richesses naturelles, et puis le travail de tous les ouvriers du monde entier. C'est pour ça qu'on a besoin, justement, d'ouvrir complètement les frontières. Il n'y aura plus de frontières. Il faudrait qu'il n'y ait plus de frontières. Plus de frontières. Il faudrait que tout soit échangé.
Est-ce que Salah Keltoumi a répondu à ta question, Camille ?
Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair maintenant.
T'es sûr ?
Certaines, oui. Le communisme, c'était quelque chose d'assez flou.
T'es devenu communiste, alors ? Non, je rigole.
Oh là, il faudrait que je me renseigne un peu plus.
Non, je rigole. Alors, d'ailleurs, juste, je vous dis ça comme ça, je l'ai dit tout à l'heure à une radio. Le communisme, je ne dis pas que c'est une idée qui est simple, mais c'est une idée qui n'est pas... J'aime pas ce qui est à la mode, parce que ce qui est à la mode, souvent, c'est une histoire de fric. Ce qui est à la mode, des fois, c'est ce qui rapporte. Voilà. Mais le communiste, à un moment donné, il y avait beaucoup de militants à une époque en France, puis dans le monde, il y avait des militants ouvriers, des militants dans les quartiers, des militants dans les écoles qui défendaient ces idées. Bon, on est une minorité à le faire. Bon, ce qui fait que nos idées, pas grand monde les connaît. Ou alors, quand on les connaît par les caricatures. Et c'est pas à l'école qu'on t'apprend ce que c'est que le communisme. Non, à l'école, on t'apprend l'histoire des vainqueurs. Et les vainqueurs sont les capitalistes à l'école. Donc c'est une école, c'est une éducation un peu particulière. D'un pays à l'autre, c'est une éducation un peu particulière. C'est pas un enseignement où on t'apprend qui est Jules César, on t'apprend qui est Louis XIV, on t'apprend qui est Ramsès II, on t'apprend pas qui a construit les pyramides, qui a fait vivre tout un pays en travaillant dans les campagnes, qui a produit des machines. On t'apprend pas tout ça. L'histoire des ouvriers, on t'apprend pas, on t'apprend l'histoire des riches, parce que c'est les riches qui dirigent le monde, etc. Donc pour le communisme, c'est pareil. Donc moi, ce que je vous conseille, vous êtes jeune, puisque je conseille aux jeunes qui nous écoutent, d'étudier le marxisme, d'apprendre ce que c'est que le marxisme. Et la meilleure façon d'apprendre ce que c'est que le marxisme, c'est bien sûr de discuter avec des militants luthouriens. Donc quand vous en croisez devant les lycées ou à l'extérieur, quand on a un journal, n'hésitez pas à venir nous voir et discuter avec nous. Mais aussi lire de votre côté. Et donc il y a un bouquin qu'il faut lire, il y en a plein, hein. Mais lisez le Manifeste du Parti communiste. C'est un livre, c'est le programme, c'est mon programme aussi aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est mon programme. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il y a écrit dessus. Et c'est un bouquin qui a été écrit il y a plus de 200 ans par Marx. Voilà, il est encore d'actualité. Et c'est un programme pour transformer la société et puis pour renverser ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Et ça explique pourquoi, ça explique comment la société tourne, comment elle s'est construite et comment on peut la changer.
Voilà. Il est plus digeste que le Capital de Karl Marx, que à peu près personne ne lit jamais, même si on en parle tout le temps. Une question
Moi, j'ai une question. Ben, je pense que les Français, ils en ont marre en général, parce qu'il y a de la précarité. Même si on n'est pas sous une dictature, ben, les lois qu'on veut pas, ça passe avec le 49-3. Mais pourquoi on se révolte pas? Pourquoi on fait rien et
pourquoi... À ton avis, pourquoi on se révolte pas?
Ben, les grèves, moi, j'en fais pas, mais les profs, ils ont fait et ils en font. Mais ben, ça bouge pas avec les gilets jaunes. On a vu, ça bouge pas. Ben, je sais pas. Bah comment on peut justement renverser le gouvernement, si vous voulez.
Les gilets jaunes. Moi, j'étais pas gilet jaune. Mais ce qu'ont fait les gilets jaunes, d'une certaine manière, c'est de se poser... Il y a eu une hausse des prix, puis les salaires sont bloqués. Des gens qui ont des petites retraites, des gens qui sont isolés dans les petites entreprises ou qui sont retraités, il y a eu un ras-le-bol général. Le ras-le-bol a eu lieu en même temps, mais il a eu lieu en même temps qu'il y a eu une hausse des hausses importantes des prix, alors que les salaires et les allocations étaient bloqués, qu'il y avait même tendance, quand elles sont bloquées, elles baissent. Donc il y a eu ce qu'on appelle une révolte, la révolte des gilets jaunes. Moi, je trouvais ça bien, dans le sens où, pour la première fois, des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester, de se réunir et de décider entre eux, l'ont fait. Voilà. Alors, les limites des gilets jaunes, c'est que là où ils auraient pu faire mal, là où est-ce qu'on aurait pu faire mal, là où le nœud du problème est, c'est là où tu travailles. Avec les gilets jaunes, il n'y avait pas de grève. Il n'y avait pas de grève dans les entreprises, parce que ceux qui décident, quand les prix augmentent, ce qu'il faut, c'est que ton salaire, il augmente. Et pour que ton salaire, il augmente, il faut se battre, puis il faut aller chercher de l'argent dans les poches du patronat. Et ça, c'est pas ce que les gilets jaunes voulaient faire, la plupart des gilets jaunes. Nous, on avait des gilets jaunes dans l'usine, mais nous, ce qu'on a appelé, c'est, en disant que le problème, c'est pas de bloquer les ronds-points, le problème, c'est d'occuper les usines, et puis d'arrêter la production. Et arrêter la production, c'est de peser sur l'économie des patrons, leur disant voilà. Et puis voilà, ça c'était mais c'était positif quand même, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude de discuter entre eux, etc. Dans chaque mouvement, il y a des choses positives. Alors, on ne gagne pas toujours dans les mouvements. Moi, la plupart des mouvements que j'ai faits, j'ai perdu. Et alors, ça m'a... T'apprends sur... Je dis pas que je suis content de perdre. Hein. On a perdu sur la retraite, on a perdu... Moi, j'étais dans une entreprise, on s'est bagarré contre les licenciements. On a perdu, mais on a perdu parce qu'on n'était pas assez nombreux, parce qu'il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus nombreux dans l'usine, mais y compris à l'extérieur. Et puis, alors, après, est-ce que c'est renverser le gouvernement? Parce que oui, j'entendais les gilets jaunes ou autres, il faut dire, Macron démission. D'accord, et si Macron démissionne, tu mets qui à la place? Voilà. Parce que on a... C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que gauche ou droite, entre guillemets, on les a tous essayés. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de jeunes qui sont écœurés, dégoûtés par la politique et qui vont voir même maintenant vers l'extrême droite en disant on n'a pas essayé. Mais tous ceux qu'on a eu à droite et à gauche, ils ont mené des politiques avec des baisses dans la fonction publique, blocage des salaires, fermeture d'usines, et puis des lois contre les travailleurs. Tu pars beaucoup plus tard à la retraite, t'es beaucoup moins payé, etc., etc. Pas d'embauche chez les enseignants, au contraire, suppression de postes, enfin, tout ce qui arrive. La santé, c'est pareil, etc., etc. Et ça, ça écœure un peu les travailleurs et les travailleuses. Et les gens se sentent un peu... Ils se disent, on s'est battu pour la retraite, on a perdu. On s'est battu là-dessus, gilets jaunes, on a perdu. Voilà, on a perdu, perdu, perdu. Alors ça démoralise, bien sûr que ça démoralise. Peut-être aussi que pour l'instant, il y a moins de bagarres, moins de luttes. C'est aussi parce qu'il y a le chômage qui pèse. C'est que ceux qui ont du travail, ils se disent, d'ailleurs c'est le discours des patrons, ou le discours des gouvernements, ou le discours des intellectuels, qui disent « Vous avez déjà quelque chose, vous savez, ailleurs c'est pire. On vous baisse la sécu, plus de frais, plus de... » Mais c'est pas grave, parce qu'aux États-Unis c'est pire, dans tel pays c'est pire. Pareil, on nivelle vers le bas. Vous avez un boulot, bon, écoutez, pensez aux chômeurs. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas content, mais il y en a 10 qui vous remplacent. Il y a toute cette pression. Voilà. Et puis on montre aussi les jeunes, parce que comme il y a des jeunes en face de moi, à chaque fois que les jeunes ils lèvent le petit doigt, ou à chaque fois que les jeunes ils l'ouvrent, là il n'y a pas longtemps, il y a des jeunes sous forme de boutade, mais c'est bien, c'était rigolo, c'était bien. Ils ont fait une énorme piñata par rapport à la police. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les jeunes, voilà, insolents, c'est pas normal, voilà, c'est pas normal qu'on donne des subventions à ces jeunes, pas normal. Voilà. Bon, par contre, tout cela, ils nous disent que les jeunes, va falloir qu'ils marchent au pas. Va falloir qu'ils marchent au pas. Alors pour l'instant, le service civique, c'est pour la radio, des choses voilà, utiles, voilà, mais ce qu'ils voient, c'est demain l'encadrement d'abord moral et ensuite après militaire des jeunes pour aller faire la guerre. Donc tout ça, ça pèse énormément.
Laissez parler la jeunesse. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Sarah Keltoumi?
Alors, vous n'êtes pas obligé de me poser des questions, vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez. Hein.
Alors, ce que j'en ai pensé jusqu'à maintenant, c'est vrai que le communisme, c'est quelque chose que vous avez raison, on n'a que peu étudié en cours, et la plupart du temps, c'est surtout pour le diaboliser par rapport à Staline, etc. On fait passer les communistes pour les grands méchants de l'histoire. Et cependant, il y a un sujet qui, moi, particulièrement me tient à cœur, je ne sais pas pour toi, Elif, c'est le féminisme. Et justement, il y a une branche du communisme qui s'appelle le féministe marxiste, avec notamment là, sa grande figure, la militante Angela Davis. Est-ce que vous avez un point de vue sur le féminisme marxiste?
Moi, quand on parle de féminisme, le premier nom qui me vient, c'est pas Angela Davis. Voilà. C'est moi, ce qui me vient en esprit, c'est plutôt Clara Zetkin ou Rosa Luxembourg, ou je disais beaucoup plus loin, Louise Michel. Voilà. 1917, voilà, les femmes ont le droit de vote. Voilà. Les femmes...
En Union soviétique?
Oui, oui, oui. Oui, 1917. Avec la Révolution. On ne parle pas de la Russie, on parle de la Révolution. Les femmes ont le droit de vote. Bon, voilà. Donc ça, c'est... voilà. Donc moi, le féminisme, on ne peut pas le défendre. On ne peut pas le défendre, le droit des femmes. Allez, si on peut, on peut défendre. Mais je veux dire, c'est si on n'est pas contre le système capitaliste, si on n'est pas pour la destruction du système capitaliste, les femmes, elles seront traitées comme elles sont traitées maintenant. Voilà. Elles sont traitées comme les migrants, elles sont traitées comme les jeunes par rapport aux vieux. Voilà. Elles seront discriminées au travail, dans la vie de tous les jours, parce que le système capitaliste, il fait que de toute façon, il faut diviser dans le monde du travail, il faut diviser les travailleurs, la population, il faut la diviser. Le féminisme, au début du siècle, dans le mouvement ouvrier, c'était de dire que les femmes doivent avoir le même salaire que les hommes. Qui n'était pas le cas, ce qui n'est toujours pas le cas. Moi, je travaille à Mulhouse. Les femmes sont payées moins que les hommes. Voilà. Pourtant, c'est un grand groupe qui reçoit des subventions. C'est valable partout. Hein, mais, voilà. Et puis, mais au début du siècle, le mouvement ouvrier et marxiste, ils sont bagarrés pour que les femmes soient les égales des hommes, voilà, au niveau salaire, au niveau conditions de travail, mais aussi au niveau vie de tous les jours. Il n'y a pas de raison que ce soit la femme, parce qu'elle accouche, pas de raison que ce soit elle qui s'occupe des enfants. Voilà, mais pour que... il y a l'arriération qu'il y a dans la tête des hommes, mais aussi il faut créer une société. Par exemple, en Russie, je vous donne cet exemple, en 17, malgré les difficultés de la guerre civile, c'est là où le pouvoir bolchevique, le pouvoir des travailleurs et paysans, ont créé les premières crèches. Voilà, pour justement qu'on puisse s'occuper des enfants, que ce soit quelque chose qui soit fait par la société en général, et puis pas par la femme toute seule dans son appartement, dans sa maison, en plus de ses tâches ménagères, en plus de machin, en plus de ceci, etc. Donc ça c'est quelque chose que la société doit prendre en main.
On pourrait peut-être quitter l'Union soviétique, enfin non, 1917, la Russie plutôt, et revenir à Mulhouse en 2026 pour ces élections municipales. Lutte ouvrière, Salah Keltoumi, dont tu es tête de liste pour les élections municipales de Mulhouse les 15 et 22 mars 2026. En fait, ça sert à quoi de se présenter ? Est-ce que vous voulez changer les choses à Mulhouse, ou c'est que le monde entier qui doit basculer? Qu'est-ce que vous voulez faire à Mulhouse?
Il n'y a pas de havre de paix. Il n'y a pas de village d'Astérix. Voilà. Et puis quand il y en a, il y en aura de moins en moins. Il y a des villes riches. Vous allez à Neuilly. Neuilly, la ville de Sarkozy, voilà, beaucoup moins d'HLM, beaucoup moins de quartiers pauvres. La ville est beaucoup plus riche, voilà. Et même quand les riches là-bas payent des taxes foncières, ils peuvent faire beaucoup plus de choses dans leur ville. Les villes ouvrières comme Mulhouse, il y a de moins en moins de pognon, il y en aura de moins en moins. Donc les choix, de toute façon, même si on est un maire, j'allais dire entre guillemets, sincère, qui a envie de faire des choses, de toute façon, à part augmenter les taxes foncières et puis choisir à qui il donnera son argent au niveau des subventions, il ne pourra pas faire grand-chose. Voilà. Alors, c'est pas qu'on n'a pas de programme sur Mulhouse. Si on avait des choix à faire, si on était élu, on aura des choix à faire. On les ferait avec, de toute façon, la population. Quand c'est une minorité qui décide à la population, quand c'est une minorité qui décide de choisir la place de la majorité, ça pose toujours des problèmes. C'est comme à l'usine, hein, on décide à la place des travailleurs, dans une mairie, souvent la mairie décide à la place des travailleurs, etc. Or, qu'est-ce qu'on ferait ? Bien sûr qu'on donnerait plus de subventions aux associations, bien sûr que c'est la culture qu'on prioritiserait, bien sûr que c'est les logements sociaux qu'on mettrait en priorité, bien sûr que c'est la santé qu'on mettrait en priorité, bien sûr que c'est l'augmentation des salaires de ceux qui travaillent dans la fonction publique, dans la mairie qu'on mettrait en priorité, bien sûr. Est-ce qu'une mairie a les moyens de faire tout ça ? Elle a les moyens politiques, si elle voulait, d'être aux côtés de tous ceux qui se battent pour ça. Voilà. D'agréger les luttes, et puis de pousser aux luttes, et puis de solidariser des luttes, et puis de défendre, d'être le relais de la population. Mais, alors, on a le même programme partout. Mulhouse n'est pas une ville particulière. On nous parle, Mulhouse, c'est une ville où il y a très peu de médecins qui viennent s'installer, et puis beaucoup de médecins qui partent à la retraite. C'est pareil partout, c'est pareil à Strasbourg, c'est pareil à Paris, c'est pareil partout. Au niveau de l'enseignement, au niveau des quartiers, c'est pareil. Je veux dire que nous, on a 240 listes en France. Alors c'est dans des villes moyennes et grandes. Voilà, ça peut aller Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, quelques arrondissements de Paris, Strasbourg, Colmar, Ensisheim. Voilà, c'est plus petit, mais on a aussi une liste là-bas. Partout, on a pu faire des listes. Voilà, on a le même programme partout. Voilà, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de différence entre... D'ailleurs, moi qui travaille à Mulhouse, moi qui travaille dans une usine à Sosheim, dans l'usine, on est des gens qui venons de toute la planète, on est plus de 50 nationalités, il y a des gens qui ne travaillent pas qu'à Mulhouse, il y a des gens qui travaillent partout. Voilà. Et quand on discute avec les salariés, partout, ils vous disent qu'ils ont des problèmes de salaire, de logement, ils ont des problèmes de santé, de soins, et puis ils ont un gros problème, c'est l'avenir de leurs enfants. Alors ça, est-ce qu'on peut ne pas en parler ? Il y a des maires qui ont décidé de ne pas forcément en parler dans leurs élections. Alors c'est un peu beaucoup d'hypocrisie, je trouve, parce que c'est les mêmes qui, des fois, soutiennent les gouvernements en place. Donc quand on soutient des gouvernements, quand on soutient des lois anti-travailleurs, et puis quand on dit localement, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Si là-haut, il y a des lois dégueulasses, si là-haut, on décide de filer le fric à plus de 200 milliards aux plus grosses entreprises. Donc ça veut dire que ces 200 milliards ne ruissellent pas au niveau des mairies. Donc voilà, c'est un choix. Donc soit on est d'accord avec le gouvernement, soit on le dénonce. Mais si on le dénonce pas, si au contraire on accrédite ce qu'il fait, bon voilà. Donc il y a plusieurs maires qui ont décidé de cacher leur étiquette. Nous, c'est pas notre cas. Donc on a le même programme partout parce que le problème des travailleurs, il est le même partout. Et en plus, il y a peut-être quelque chose qui a, bon, c'est peut-être que ça commence à percuter dans la population, mais on est quand même proche d'une guerre. Voilà, on est quand même, que vous le vouliez ou non, les dés ont été lancés, les dominos tombent les uns après les autres. Le Moyen-Orient est à feu et à sang, des dizaines de pays qui sont touchés, l'Afrique c'est pareil. Peut-être bientôt la Chine, peut-être bientôt aussi l'Europe. Alors dans combien de temps, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure. Donc c'est difficile de ne pas discuter de notre avenir, de la guerre. On peut parler des espaces verts ici à Mulhouse, mais en Ukraine, à Kiev, ils parlaient sûrement des espaces verts. Peut-être qu'ils en causaient. Alors, je ne sais pas s'ils causaient des pistes à vélo ou j'en sais rien. Il y a des maires qui devaient parler. Alors que les bombes, voilà, les bombes pleuvent maintenant. Les bombes pleuvent.
Mais les bombes, elles sont aussi le fait de gouvernements d'extrême droite. Souvent, et les travailleurs, ils votent de plus en plus à l'extrême droite et de moins en moins à gauche. Ou alors, ils ne votent plus. Est-ce que ce n'est pas ça la révolution qui arrive? C'est des choix électoraux qui nous amènent à l'extrême droite. C'est le cas déjà aux États-Unis, en Argentine, en Hongrie, les élections en Allemagne, enfin l'extrême droite gagne des voix partout en Europe. Comment lutter contre ça? Est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que il y a une alternative à gauche pour les électeurs et les électrices aujourd'hui?
Alors les bombes, c'est pas que l'extrême droite. Les bombes, c'est pas que la droite. Trump envoie bombarder l'Iran, d'accord, mais faut pas oublier qu'Obama, qui était démocrate, il a aussi envoyé des armées en Irak et en Afghanistan. Avant lui, Bush. Il y en a qui disaient qu'avec Obama, qui est démocrate, ça allait changer. Mais non. La politique, c'est une politique du système, c'est pas une politique d'un homme ou des hommes, c'est le système capitaliste qui est comme ça. Quand on arrive à gagner économiquement à coup de PA, à coup de vente, à coup de concurrence, dans tel secteur d'économie, on le fait, mais à un moment donné, quand il faut des minerais et quand il faut se les accaparer, si le pognon, la finance, les banques, ça suffit pas, on va se les accaparer par les armes. Et voilà.
Et on va arriver doucement vers la fin de cette émission, mais peut-être qu'Elif... une dernière question à poser à Sarah Keltoumi de Lutte Ouvrière.
Non, mais je pense devenir communiste.
faut qu'on discute.
Non, mais elle rigole beaucoup en disant ça.
Je sais pas si
elle
rigole. Tu rigoles beaucoup en disant ça ou... Ah, d'accord. Bon.
Et Camille, est-ce que tu aurais envie encore d'échanger avec Sarah Keltoumi?
Alors non, mais je vous remercie vraiment énormément pour la quantité d'informations que vous nous avez données, puisque je vous avoue que le communisme, j'y avais jamais prêté plus d'attention que cela. Et même si le féminisme est quelque chose qui m'intéresse énormément, je ne m'étais jamais penchée non plus sur le féminisme marxiste, mais j'adhère énormément aux idées à de nombreuses idées dont vous avez parlé.
Il faut continuer la discussion. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait dingue de pas discuter de ce qui peut nous tomber sur la gueule dans les mois prochains. Alors, la campagne électorale, elle est faite aussi pour ça. Parce que le problème des campagnes électorales, c'est quand des militants professionnels vous disent « Faites-nous confiance, votez pour nous, on va changer les choses pour vous. » On pense que... C'est... D'ailleurs, on le voit élection après élection, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, il faudrait que la population, les travailleurs, prennent leur vie en main, prennent les choses en main. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait, ça va contre leur intérêt. Alors, c'est pas simple, parce que ça veut dire faire de la politique. Alors, pareil, on nous a mis dans la tête que faire de la politique, c'est pendant les élections, c'est ceux qui se présentent. Alors, nous, le fait qu'on arrive à monter une liste avec plus de 55 travailleurs et travailleuses, des gens qui, pour certains, n'ont pas l'habitude ou ne sont jamais forcément posé des questions de travailleurs, mais qui se sont dit, par les temps qui courent et puis parce qu'ils nous tombent sur la tête, eh bien oui, il faut défendre un programme qui défend nos intérêts. Voilà, le fait de le faire, c'est une démonstration, c'est dire que c'est possible. Voilà, et puis il faut le faire, on n'a pas le choix. Donc la politique, ça ne s'arrête pas aux élections législatives, c'est un épiphénomène. Les élections municipales, c'est un épiphénomène comme toutes les élections. Voilà, on fera nos comptes, on verra les évolutions, y compris dans le pays. Mais ce qui compte, c'est que dans la jeunesse, parmi les travailleurs, les travailleuses, parmi les chômeurs, parmi les étudiants. Beaucoup se disent, le monde, il va mal, il va aller de plus en plus mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer ? Voilà. Mais ça dépend de nous, si on fait de la politique ou pas. Alors, nous, on pense que c'est en construisant un parti communiste révolutionnaire qu'on arrivera à trouver les ressorts pour changer cette société. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà. Et c'est ce qui est le plus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on défend dans toutes les élections. Et c'est ce qu'on défend dans ces élections aussi, et y compris municipales, malgré tout la reproche qu'on peut avoir.
Et oui, la révolution est en marche, du moins pour Sarah Keltoumi, notre invitée tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Mulhouse. Et donc, voter pour Lutte ouvrière n'amènera peut-être pas la révolution, hein, parce que malheureusement pour vous, il n'y a pas de score incroyable à attendre. Donc c'est en dernier mot, la révolution, on y arrive comment si ça passe pas par les élections?
Ça passera pas par les élections. Vous verrez, la révolution, vous la ferez, on la fera, ou vous la verrez. La révolution, elle arrive, des fois on s'y attend pas. Par contre, quand elle a lieu, la révolution, oui, il faut qu'on la prépare en avance, on peut la préparer. Qu'est-ce qu'on va y défendre dans cette révolution? Qu'est-ce qu'on va y défendre? Voilà. Est-ce qu'on pense qu'il faut remplacer Macron, il faut mettre quelqu'un qui de mieux que lui, plus à gauche, plus à droite, voilà. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Dans cette révolution, il faut que les travailleurs, les travailleuses, ils prennent le pouvoir. Nos concurrents, ce sont ceux qui dirigent cette société. Ceux qui dirigent cette société, ce sont les Pinault, les Bolloré, les Bettencourt, tous ces grands patrons. C'est eux qui font la loi et le beau temps. Donc c'est à eux qu'il faut prendre le pouvoir. C'est à eux qu'il faut prendre. Il faut prendre en main l'économie. Donc voilà, ça, on peut en discuter avant. Voilà, mais la révolution, elle aura lieu. Je serai peut-être plus là, vous serez peut-être plus là. Mais en tout cas, des jeunes vont la connaître, forcément.
Merci beaucoup, Sarah Keltoumi, tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs au municipal de Mulhouse. Merci, Camille, merci, Elif, et rendez-vous.
Merci, Jean-Luc.
Bientôt pour la suite des interviews, entretiens autour des élections municipales qui ne changeront rien pour Lutte ouvrière, mais peut-être pour les autres.
Si, elles peuvent changer des choses pour Lutte ouvrière, bien sûr. Le fait de connaître des jeunes, le fait de connaître du monde, on construit le parti à travers aussi les élections. Donc tous ceux qui veulent discuter avec nous peuvent le faire. Voilà, ils ont les moyens de, puis ils peuvent nous trouver dans les cages d'escalier ou sur les marchés ou autres. On a une presse aussi. Voilà, on essaie de faire connaître aussi notre presse. Donc voilà, on est aussi sur Internet. On a aussi des pages Facebook. On a un portail Lutte ouvrière nationale où on écrit sur tous les sujets. On a une analyse sur tous les sujets. Donc voilà.
Tous les sujets, mais vous n'avez pas de programme pour les municipales
à Mulhouse. On en a. Et on a le programme le plus crédible. Parce que les autres, il n'est pas crédible. Leur programme, les autres, ne sont pas crédibles. Le nôtre, il est crédible.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous.
Le sang de nos frères réclame.
cette année, je compte me présenter aux élections municipales.
Radio WNE.